Alors, moi, je suis le rapporteur de l'atelier sur le traitement des difficultés des élèves dans la classe avec Florence et Vincent. Voilà, donc l'idée, donc, c'est à partir d'un constat qui est fait que sur les jeunes enseignants qui, quand on les interroge, quand ils reviennent de stage sur leur prise sur le décrochage, ils disent en fait qu'ils sont complètement impuissants. Donc l'idée, c'était essayer de donner une prise au niveau de la classe sur le décrochage à partir d'une expérimentation qui a été faite dans l'Académie de Lyon avec différents partenaires. Alors, ce travail, il a été fait à partir d'un outil. Donc, je vais prendre un tout petit temps pour vous présenter l'outil. Donc, l'outil s'appelle l'arbre des causes. Voilà, donc c'est un outil où chacun va croiser des logiques pour essayer de repérer les causes d'un phénomène. En l'occurrence, dans le monde scolaire, c'était au niveau du décrochage. Donc cet outil, en fait, il ne vient pas de l'Éducation nationale, c'est un outil qui vient de l'entreprise et qui a été mis en place dans le cadre de la responsabilité par rapport aux accidents du travail. Voilà, donc l'idée, donc, c'est de réinvestir cet outil pour en faire un outil de compréhension des enseignants vis-à-vis de leurs élèves, et notamment dans la question du décrochage scolaire. Alors, cet outil, il a un intérêt, c'est qu'il dépassionne le contexte, qui à l'origine était un contexte d'accident du travail. Son objectif, c'est d'ouvrir le dialogue entre les acteurs. C'est aussi d'essayer d'agir vite, mais en essayant de repérer les causes profondes du problème. Alors, la méthode, c'est de mener une enquête, et à partir de l'enquête qui est menée, qui est faite à partir elle-même d'entretien, on va essayer de construire l'enchaînement des causes d'un phénomène sous forme graphique. Voilà, donc ce qui va permettre à chacun de s'exprimer et de pouvoir croiser les points de vue. Alors, l'enquête, elle est faite à partir de faits et elle est menée à partir, dans le cadre de l'entreprise et dans le cadre de l'école, elle est menée à partir d'un entretien, un récit qu'on mène, en l'occurrence avec un élève. Voilà, donc ensuite il s'agit, à partir de ce récit et de ce recueil de faits, de construire un outil qui va permettre de lire les enchaînements qu'il y a entre les différentes causes d'un phénomène. Voilà, pour répondre aux questions, qu'est-ce qu'il a fallu pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va essayer d'enchaîner comme ça les différentes raisons. Voilà, je continue. Alors, dans le cadre scolaire et dans l'expérimentation qui nous a été présentée, cet outil est formalisé à partir du récit des élèves. Et donc, à partir du récit, on va essayer de catégoriser les causes pour essayer, à partir de ces catégories, de proposer des solutions. Donc, l'idée, c'est d'identifier dans la chaîne des causes qu'on va pouvoir repérer où sont les leviers où on va pouvoir agir, où sont les lieux où on va pouvoir mener des actions. Voilà, donc l'application de cet outil aux élèves, donc ça a été l'objet de l'atelier et de l'exercice qu'on a fait tous ensemble. Voilà, donc on a eu un document sur un entretien d'un élève qui a été mené par une enseignante. Et donc, à partir de cet entretien, c'est-à-dire ce que dit l'élève, on a tous essayé ensemble de comprendre quelles étaient les causes de son décrochage. Voilà. Donc, on nous a demandé de nous essayer nous-mêmes à l'arbre des causes à partir d'un modèle qui a été projeté, où là, on avait identifié au préalable les causes, mais qui avaient été déterminées non pas par les élèves, mais par l'institution elle-même et par les enseignants à l'issue du conseil de classe de cet élève. Et donc, on a essayé, nous, de travailler à partir des causes, mais sur le récit de l'élève. Voilà, donc on a établi l'arbre des causes de l'élève à partir de l'arbre des causes de l'institution. Voilà, donc on a eu un temps de travail individuel, puis un groupe, et puis on a mis en commun tout ça pour essayer de voir ce qui se verbalisait chez l'élève, à la fois de manière consciente et à la fois de manière inconsciente. Voilà, donc on a eu des discussions là-dessus, et puis les animateurs nous ont proposé leur propre arbre des causes qu'ils avaient construit sur le cas de cet élève, qui est un élève de LP. Voilà, donc ils nous ont proposé à l'issue donc de notre travail l'arbre des causes qu'ils avaient eux-mêmes construit à partir de l'entretien qui avait été fait sur un élève hein, qui existe, avec une professeure qui existe et qui est là. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on nous a proposé l'arbre des causes qui avait été construit, auquel ensuite a été superposé l'arbre des causes qui avait été donné préalablement donc à l'issue du conseil de classe. Donc, il y a une superposition des deux arbres des causes. Voilà. Et là, donc, les acteurs nous ont dit que les deux arbres n'étaient pas tellement différents, mais ce qui était très différent, c'est la formulation. C'est-à-dire que ce qui a été fait à partir de l'entretien de l'élève n'était pas formulé de la même manière que ce qui a été fait à partir de l'entretien des enseignants en conseil de classe. Voilà. Donc, la superposition des deux arbres a permis d'identifier le levier et donc de pouvoir proposer des solutions par rapport à cet élève, mais des solutions, on verra après, qui peuvent s'inscrire dans la durée et servir à tous les élèves décrocheurs. Voilà, donc l'idée, c'était d'essayer de se servir des outils existants et pas forcément d'en surajouter, mais de trouver la bonne réponse pour cet élève en particulier. Voilà. Et pour chaque réponse qui était donnée, il fallait identifier les acteurs qui allaient être engagés dans cette réponse, donc pour pouvoir faire des groupes de travail. Voilà. Ensuite, il y a eu un calendrier des actions à proposer qui a été présenté sous forme schématique avec un véritable plan d'action qui s'inscrit dans la durée et qui est à destination de tous les élèves. Alors, ce travail aujourd'hui est toujours à l'ordre expérimental dans l'établissement ou peut-être dans d'autres. Voilà, donc l'intérêt de ce travail, c'est au moins qu'il arrive à fédérer une équipe autour d'un projet, qu'il arrive à mettre en évidence les causes pour pouvoir trouver les leviers possibles d'action. Alors, il y a des leviers qui sont dans l'établissement sur lesquels on peut agir. Dans les causes, des fois, on répertorie des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Donc, l'idée, c'est vraiment de les identifier pour pouvoir agir dessus. Voilà, ça constitue un dispositif en soi. Mais c'est plus qu'un dispositif, c'est une méthode qui permet de sortir du sentiment d'impuissance qui avait été dit au début par les enseignants quand on les interrogeait, notamment les jeunes enseignants. Voilà, donc l'atelier a été suivi de questions où là on a essayé de voir un petit peu ce qui était possible. Ça a posé certaines questions, notamment la question générale du travail entre tous les acteurs qui est nécessaire pour pouvoir monter un projet à partir de cet arbre des causes. Donc une prise en charge de tous les acteurs dans le phénomène du décrochage. Et puis on a aussi posé la question de la technique d'entretien, puisque pour réaliser cet arbre des causes, il y a eu un entretien long qui a été fait avec un élève. Et donc, cette technique d'entretien, on se demandait s'il ne fallait pas qu'elle soit nécessaire dans la formation des enseignants. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai noté. J'ai préparé une conclusion quand même pour dire que là, vous avez le résultat final. Il y a même une diapo encore après où il y a encore des choses qui se superposent. Alors, on a l'impression que c'est un fouillis, mais non, c'est vraiment une élaboration progressive, un enchaînement, une superposition qui fait qu'on part de deux arbres des causes qu'on croise pour en arriver au levier et ensuite aux actions possibles. Donc ce que je voulais dire en conclusion, c'est que ce n'est pas un arbre qui cache la forêt, mais qui au contraire laisse entrevoir la clairière.
Bon, alors c'est à moi, donc on va y aller. Alors on a eu l'intervention de Monsieur Schneider, qui appartient au groupe... Rochas, qui appartient au groupe Schneider. Et donc, qui nous a expliqué la démarche de son entreprise pour essayer de ramener des jeunes dans le circuit du monde du travail. Hein. Alors, donc ça correspond à une volonté de développer des stratégies pour favoriser l'accès à l'emploi. Donc, il y a eu une demande institutionnelle, en l'occurrence de Jean-Louis Borloo, d'après ce qu'il nous a dit, qui demandait au PDG de Schneider quelles étaient les solutions qu'il proposait pour essayer de ramener donc ces jeunes en situation difficile, donc particulièrement issus des ZUS, hein, zones urbaines sensibles, pour revenir à l'emploi. Et après un temps de réflexion, le PDG a proposé donc le projet sans chance, sans emploi, sans 10 fois 10. Hein. Donc, Monsieur Rochas a rejoint la branche développement durable pour mener à bien ce projet, et il a ciblé des jeunes résidant donc en ZUS, avec un taux de chômage évidemment plus important que la moyenne, 40 à 45%, et sur des jeunes issus, enfin sur des jeunes dans la tranche d'âge 18-35 ans. Les jeunes vont jusqu'à 35 ans dans ce projet-là. Alors, à l'issue de ce recrutement, on va dire, hein, qui n'est pas fait un petit peu au hasard, c'est quand même, il y a deux critères, nous a-t-il dit, qui sont pris en compte. Le premier, c'est que le jeune veuille travailler. Bon, ça paraît un préalable incontournable. Et le deuxième, c'est qu'il ait un projet professionnel. Voilà, donc... Il y a une sorte de commission de recrutement de ces jeunes au départ pour être sûr d'avoir affaire à des gens qui tiendront la route jusqu'au bout, quoi. Hein, et pas mettre des gens, des jeunes avec des idées un petit peu erronées sur une voie qu'ils ne seront pas à même de suivre jusqu'au bout. Donc ils sortent de ce projet normalement, hein, théoriquement, et bon, après il nous a donné des statistiques, soit avec un contrat CDI, soit CDD, hein, sur 6 mois, soit en intérim, soit ils font une entrée dans une formation qualifiante. Alors il y a un réseau qui a été mis au point, qui a été construit peu à peu, et ça a conduit à un regroupement d'entreprises motivées pour contribuer à la résorption du chômage en zone urbaine sensible. Pour le choix des villes concernées sur lesquelles le groupe Schneider allait se focaliser, c'était un petit peu selon l'implantation de l'entreprise sur le territoire. Donc il y avait une implantation, enfin il y avait une action faite sur Lyon qui n'a pas donné suite, qui s'est arrêté, et puis là, actuellement, sur Rochelle, je disais qu'il était plutôt sur Grenoble, enfin puis d'autres régions, hein, aussi, bon, dont je n'ai pas la liste exhaustive. L'éthique globale, c'est que on souhaite une meilleure efficacité, on vise une meilleure efficacité ensemble que seul. Bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit auparavant. Effectivement, on s'aperçoit que c'est une démarche qui ne peut pas être entreprise isolément et qu'elle mobilise forcément toute une pléiade d'intervenants. Alors, premier intervenant, c'est les financeurs, donc l'État et la ville, selon la politique qu'elle mène en la matière. Et puis les entreprises, évidemment, qui jouent un rôle de formation de toute façon, et qui s'engage à ne pas laisser en rade les jeunes qu'on leur a confiés. Donc le repérage de ces jeunes se fait par les missions locales et les maisons de quartier. Donc les critères, je les ai dit. Et donc à l'issue de cette petite sélection de départ, 10 jeunes sont proposés, et un travail qui est sur les savoir-être qui est fait dans le cadre d'un petit stage coaché par une personne compétente. Un stage de 4 jours à l'issue duquel les jeunes apparaissent comme étant transformés et hyper motivés pour jouer le rôle qu'on leur propose de jouer dans la société auprès des entreprises et de se former. Voilà. Et bon, après, il y a bien sûr le baptême du feu de l'entretien face aux entrepreneurs qui a lieu, j'ai compris, d'abord en simulé puis ensuite en réel, face à toute une pléiade d'entrepreneurs qui viennent écouter ce que le jeune a à dire. Et la difficulté, c'est que ce type de jeune n'a pas grand-chose à dire, sinon décliner son identité, vu que son CV est vide, et que même s'il ne demande qu'à le remplir, il n'a pas grand-chose à donner comme élément dans un entretien d'embauche. Donc, ils sont formés pour ça. 4 jours, ça me semble peu, mais apparemment, ça a l'air de porter ses fruits. Puis tout dépend de la dynamique qu'on met dans ces stages. Et donc, ensuite, ils sont pris en charge par l'entreprise et ça débouche sur une embauche. Alors, les pourcentages, enfin, ça ne débouche pas forcément sur une embauche, justement, parce qu'il y a déjà une déperdition. Moi, j'ai perdu mes feuilles déjà. Alors, vous voyez, je suis pas forcément apte à la tâche. Bon, en fait, il nous a donné un chiffre de 1346 jeunes qui sont rentrés dans le dispositif. Depuis la création du projet, hein, depuis le début. Sur ces 1346 jeunes, 346 ont été perdus. Soit ils n'ont plus donné signe de vie, soit ils ont carrément arrêté le processus, soit 20% à peu près, et 666 sont en sortie positive, donc à peu près la moitié sortent de ce processus avec quelque chose en main. Alors, le bilan que nous a fait M. Rochas et son ressenti est que ce type d'entreprise ne marche que s'il y a de l'humain. Et effectivement, c'est par ça qu'il semble avoir commencé, c'est-à-dire une prise en charge des élèves, enfin des élèves, des jeunes plutôt, avec une dimension humaine très forte, une implication très forte, des moyens qui sont donnés évidemment pour arriver à ça. Et c'est aussi le rythme de concertation avec les entreprises et les jeunes qui a été fixé à une fois par mois, qui fait que ça crée des liens non seulement entre les jeunes et les entreprises, mais aussi entre l'entreprise Schneider et puis bon, ses représentants et les autres entreprises qui accueillent. Donc c'est une aventure humaine, hein, j'ai compris ça. Et du coup, ben effectivement, quand on parle d'humain, et on en parlait hier justement, c'est ma conviction aussi, on arrive à quelque chose. Si on ne parle que de chiffres, si on ne parle que de résultats dans l'abstrait, ou si on traite les gens comme des machines, voilà. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Ça ne marche pas. Mais ça conforte ce qu'on a dit, ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est tout. Après, bon, actuellement, la capacité maximale annuelle sur une région est de 80 jeunes et d'à peu près 20 entreprises actives. Je ne ferai pas la même brillante conclusion que ma collègue. Si ce n'est que, ben, en fait, l'entreprise Schneider, on l'a vu comme se posant en interface, en fait, entre les jeunes et le monde du travail, et que c'est un petit peu l'autre versant, donc, de l'approche qui avait été faite ce matin par Monsieur Terrasse, qui voyait plus les choses du côté éducation nationale, évidemment. Et c'est assez instructif au niveau et éclairant au niveau du parcours que peuvent avoir des jeunes. Soit dans l'éducation nationale, soit dans l'entreprise. Et ça reste, ça sera ma conclusion, mais bon, ça reste une aventure humaine tout aussi passionnante d'un côté que de l'autre. Voilà.